Hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
Cet été, découvrez les talents de Montréal sur les berges du canal de la Chine à la station FMA. Jusqu'au 15 août, le Wagon Galerie accueille Seft Art. Made in Montreal et sa sélection de créateurs occupent le wagon boutique et vous pouvez déguster des breuvages locaux au wagon café. Le wagon Stanley Studio accueillera artistes de la scène montréalaise et programmation spéciale de choc.ca. Profitez des activités pour tous et toutes, de concerts, de spectacles et des initiatives locales. La station éphémère, c'est à Griffintown, du lundi au dimanche, de 11h à 23h. Plus d'infos sur stationéphémère.ca et sur notre page Facebook.
T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
Pool Hip-Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
La vie est un grand jeu.
Hey, à quoi on joue?
La vie est un grand, grand jeu.
Viens t'asseoir avec nous.
Silence dans la salle, silence à tous, silence, silence. Puisque nous nous retrouvons aujourd'hui ici dans les studios de Choc pour cette émission de La vie est un grand jeu avec votre animateur Jod Léveillé Bernard et bien sûr notre chroniqueuse favorite. Notre chroniqueuse favorite, oui, bien sûr. Et j'ai nommé Anne-Sophie Touga.
Bonjour.
Hey, ça va bien, Anne-Sophie?
Oui, ça va bien. Et vous, Jude?
Ah ben, ça va super bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On s'est bien ennuyé de vous à notre dernier épisode.
C'est toujours un plaisir.
Mais au moins, vous étiez là.
Oui, oui.
En intelligence, grâce à vos recherches. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de droit de l'environnement. C'est comme un peu une petite séquence d'émission qui va parler de droit de l'environnement. Aujourd'hui, le droit de l'environnement comme un droit fondamental. Ha ha! Ensuite, on va parler du jeu, ou plutôt avant, nous allons parler du jeu Evolution, édité par North Star Game. Un merveilleux petit jeu. Et Anne-Sophie, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Ben aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit tour d'horizon de la ville de Montréal en ce qui a trait à des initiatives urbaines en termes d'environnement, wow. Comme c'est le thème de l'émission.
Fantastique! Eh bien, sur ce, écoutons un peu de musique pour nous mettre en entrain aujourd'hui. Je vous invite à écouter Multitask, qui met en vedette Miss Eve, du groupe Donzel sur leur album Presse Jus.
Brossant pissant les cheveux de ma fille le matin, la somme du savoir, un missile à les deux de demain. Le chien, le pour deux, va falloir l'amener vers l'école des siens. Pas de tout repos quand t'es haut comme moi qui roule le rein sur tout ce que je vois. Je t'explique ta vie en me lavant la craque jusqu'à minuit. Je te multitask.
faire plein de choses toujours, tout le temps, en même temps, sur une console, en train de faire le son, sur n'importe quoi d'autre, en train de faire d'autres choses, tout le temps, en train de faire plein d'affaires. Eh bien, c'est ça qui est ça. Et ben maintenant, c'est justement le temps de parler de notre jeu du jour. J'ai nommé Evolution par North Star Game. Et dans le jeu Evolution par North Star Game, on parle de la survie des espèces. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus d'espèces qui survivent, ou en tout cas, qui survivent le mieux. Chaque joueur tente de faire évoluer ou survivre des espèces d'animaux. Wow! En effet. La mécanique est assez simple, ceci étant dit, des cartes qui déterminent les caractéristiques des espèces et qui vont faire en sorte qu'elles survivent et se nourrissent mieux, plus efficacement. Chaque joueur commence la partie avec un petit plateau d'espèces qui sert à garder le compte de la population de l'espèce, du format de l'espèce, ou de la taille plutôt, et de la nourriture mangée dans une manche. Chaque joueur a aussi un sac à jetons de nourriture pour accumuler la nourriture qu'il aura mangée dans la manche et au travers des différentes manches pour déterminer à la fin le gagnant. Au centre de la table, il y a l'oasis où on va placer des jetons de nourriture disponibles pour chaque manche. Une manche, ça consiste en quatre phases assez simples, ceci étant dit, donc je vais être capable de l'expliquer assez rapidement, je l'espère, parce qu'on a une émission chargée aujourd'hui. La phase 1, on distribue les cartes de caractéristiques d'espèces. Donc, chaque joueur reçoit trois cartes de caractéristiques plus une pour chaque espèce qu'il a. Donc, on peut avoir plus qu'une espèce en jeu. La phase 2, on détermine la quantité de nourriture disponible en discardant une des cartes de caractéristiques de sa main. Parce que sur chacune des cartes, il y a un petit numéro en bas qui détermine combien de jetons de nourriture sera disponible dans l'oasis pour cette manche-là. Alors, c'est comme une deuxième façon d'utiliser les cartes. Ensuite, faut savoir aussi qu'il y a des cartes négatives. Donc, on enlève de la nourriture de l'oasis. Oui. Bon, calmez-vous, s'il vous plaît, peuple en délire, calmez-vous. Un exemple de carte qu'il va y avoir, parce qu'on arrive enfin à savoir la troisième phase, on joue les cartes de caractéristiques. Parce qu'on ne sait pas encore combien il va y avoir de nourriture à la fin de la phase 2. Non, c'est seulement à la phase 4, mais on dépose nos cartes à l'écart dans le petit plateau oasis, puis plus tard on va le savoir. À la phase 3, on va jouer nos cartes. Donc, des cartes de caractéristiques sur nos espèces, on va trouver plein de trucs différents comme fertile, chasse en meute, horde défensive qui va mieux se défendre contre les carnivores, une autre caractéristique qu'on peut trouver. Il y a aussi les charognards qui se nourrissent, eux, en même temps que les carnivores, même s'ils peuvent être... normalement des végétariens finalement, hein,
des herbivores.
des fourrageuses, une caractéristique de fourrageuse qui va faire que l'espèce se nourrit plus à chaque fois qu'elle a l'occasion de se nourrir, ou des longs coups qui se nourrissent avant tout le monde. Toutes ces caractéristiques-là, on va les mettre en même temps, tout le monde joue en même temps, et on peut jouer des caractéristiques pour chacune des espèces qu'on a, donc les petits plateaux d'espèces là qu'on va retrouver, on va en mettre jusqu'à trois par espèce, et chaque espèce ne peut avoir qu'une seule fois chacune des caractéristiques. Donc, elle peut pas être fourrageuse deux fois puis manger quatre jetons, là, ça serait complètement... Mais on peut pas. On ne peut pas. On peut aussi discarder une carte de caractéristiques. Oui. Une autre façon de jouer les cartes. Hein. Donc, on a déjà la première façon, ça met de la nourriture dans l'oasis. Après ça, ça sert de caractéristique. Mais on peut aussi jeter une carte pour ajouter une nouvelle espèce, donc mettre un nouveau plateau d'espèces, ce qui va permettre de mettre plus de caractéristiques puis de manger plus. Parce que le but, c'est de manger, je vous le dis tout de suite. Là. Ça va permettre aussi, en discardant une carte, d'augmenter la population d'une espèce ou alors d'augmenter la taille des individus. Quand on augmente la population, ben ça va nous permettre de manger plus. Cette espèce-là va manger plus. Et augmenter la taille, ben ça permet de se défendre contre les carnivores ou de manger des espèces plus petites si on est carnivore. Hein? On va noter que les points sont comptés avec la nourriture mangée durant la partie, mais aussi la population des espèces qui ont survécu jusqu'à la fin et les cartes caractéristiques sur les espèces qui ont survécu. Donc, chacune de ces choses-là, là, ça vaut un point. Donc, chaque jeton de nourriture va valoir un point dans le sac à caca, comme on dit en bon français, hein, le sac de nourriture. Mais aussi, chacune des caractéristiques sur les espèces et chaque niveau de population va valoir un point. C'est brillamment simple, comme on pourrait dire. Hein? Je sais. Et donc, à la fin de cette phase-là, quand tout le monde a joué toutes ces choses, on retourne les cartes caractéristiques et on découvre quelles sont les espèces qui se sont ajoutées ou quelles sont les caractéristiques qui ont changé chez une espèce, parce qu'on peut échanger aussi des choses. Pas entre une, mais on peut mettre une nouvelle caractéristique, en enlever une, en rajouter si on n'en avait pas trop à la base, ainsi de suite. La phase 4, on se nourrit. C'est simple, hein? C'est assez simple. Bien, en partant, bien sûr, de l'étape de... Il y a certaines caractéristiques là, qui vont prendre effet avant même qu'on sache combien il y a de nourriture de disponible, là, comme les longs coups, ils se nourrissent avant qu'on retourne les cartes. Les fertiles, s'il y a déjà de la nourriture, ils vont se reproduire sans même avoir besoin de faire autre chose. Et après ça, on révèle la quantité de nourriture disponible. Donc, on additionne toutes les cartes qui ont été mises, puis... où on fait des soustractions aussi, ça se peut. C'est, hélas, ça demande un haut niveau de mathématiques dans ce jeu-là. C'est pas vrai. En commençant par le premier joueur, ensuite, chaque joueur va prendre un jeton de nourriture dans l'oasis et le placer sur une de ses espèces. Bien sûr, et le premier joueur, ça change à chaque tour, c'est le petit dinosaure là, qui va se déplacer d'une manche à l'autre. Et donc, on place sa nourriture sur son plateau d'espèces jusqu'à épuisement des jetons ou que toutes les espèces aient un nombre de jetons égal à leur population. Et là, toutes les espèces ont été nourries, il reste peut-être de la nourriture dans l'oasis. Si une espèce ne réussit pas à manger à hauteur de sa population, ben on réduit la population jusqu'à hauteur de ce qu'elle a mangé. Et si une population égale zéro, ben l'espèce meurt. Le jeu est assez simple dans sa mécanique, mais c'est les caractéristiques là, qui vont venir changer la dynamique et c'est là que toute la stratégie prend forme. Par exemple, les carnivores ne se nourrissent pas avec les jetons de nourriture de l'oasis, mais en mangeant d'autres espèces. Oh my God! Doivent donc avoir une taille plus grande que leur victime, à moins qu'il y ait des caractéristiques qui vont venir changer cette donne-là. Par exemple, ceux qui chassent en meute, ben c'est la population qu'on va compter au lieu de simplement leur format, leur taille. Ils vont prendre un nombre de jetons équivalent à la taille de l'individu de l'espèce qu'ils vont avoir mangé. Donc, puis ils ne prennent pas dans l'oasis, donc ils ne viennent pas enlever de la nourriture dans l'oasis. Ou on pourrait dire aussi, ils n'ont pas besoin de l'oasis pour se nourrir. Oh, oh, oh! Et bien sûr, ils vont réduire en faisant ça la population de l'espèce de 1. Mais là, les autres espèces peuvent se protéger en grimpant aux arbres, en se servant de la horde. Il y a des caractéristiques de horde défensive qui font qu'on compte la population pour se défendre. En s'enfouissant sous la terre, hein, s'ils ont déjà mangé, ils s'en vont dans leur terrier, hop, le carnivore ne peut plus les trouver, et ainsi de suite. Là, il y a des trucs qui font qu'ils s'avertissent entre eux, les espèces. Le placement des espèces a une certaine importance, mais j'entrerai pas dans ces détails-là parce que ça fait déjà 10 minutes, non, j'exagère, mais presque que je parle de ce jeu-là. Et il reste à recommencer la phase encore et encore jusqu'à temps qu'on ait épuisé les cartes de la pige de caractéristiques. Et c'est donc la combinaison de plusieurs caractéristiques qui va créer des espèces mieux protégées ou qui permettra aux joueurs de se créer même un écosystème autosuffisant et générant plein de points. Oui! Ah, c'est merveilleux, la vie.
Yeah.
voici venu enfin, je sais, enfin, le moment d'écouter Anne-Sophie. Anne-Sophie, aujourd'hui, nous fait faire, si j'ai bien compris, un tour de Montréal écolo.
Exact.
Ah, super. Êtes-vous prêt pour l'aventure?
Et que je l'aime, mon indicatif.
Tant mieux, ah. Parce que c'est le vôtre.
Alors, je vous parle un peu des initiatives qu'on peut retrouver à la Ville de Montréal. Alors, pour les citadins d'entre nous qui ne nous avons pas quittés pour l'été ailleurs en campagne et qui
mais rester en ville. Mais on n'est pas l'été en ce moment.
Ah non?
Parce que les gens nous écoutent à toute heure de la journée, toujours de l'année, hein, dans 100 ans.
Espérons que nous soyons toujours l'été cette nuit. Alors, oui. Commençons par les corridors, parce que j'ai un menu chargé.
Oui.
Je vous avertis.
J'arrête de vous interrompre.
On commence. Je vais vous parler des corridors verts et des ruelles vertes que vous connaissez peut-être déjà pour en croiser plusieurs dans votre quartier, votre arrondissement. Eh bien, connaissez-vous qu'il y a l'application branchée? Est créé par Éco-Communication, qui agit en tant que répertoire et catalogue de la végétation urbaine. Alors, parfois, on se promène, on voit un arbre, on se demande, par exemple, quel est cet arbre-là. Bien, cette application va nous aider à l'identifier avec des informations sur les feuilles, sur la grandeur des arbres, plein de petites informations comme ça pour le milieu urbain, spécifiquement pour Montréal. Donc, ça agit à titre indicatif, mais aussi pour comme collecte de données libres. Donc, on peut y participer librement.
Un seul mot me vient en tête.
Hourra! Et ça permet aussi de rapporter des freins de malades. Alors, c'est vraiment collaboratif comme application. Bref, alors, je m'en vais dans les ruelles vertes. Sur le site des écoquartiers de Montréal, on peut voir l'ensemble des ruelles vertes de l'île qui se sont d'ailleurs multipliées depuis les 10 dernières années. Ça, ça a augmenté de façon significative. Les ruelles vertes ont comme objectif de contrer les îlots de chaleur. Hein, il y a plusieurs objectifs, dont pour cet été, on peut d'ailleurs les remercier, on en a besoin,
hey boy, boy, oui.
De récupérer l'eau de pluie,
oui.
D'embellir les espaces urbains, d'augmenter la biodiversité par l'augmentation de plantes vivaces, des arbres, des arbustes, en plus de plantes indigènes, en plus de créer des occasions de fraterniser entre voisins, parce qu'il faut savoir que les ruelles vertes, ce sont des initiatives qui sont portées par les citoyens, qui sont appuyées par les écoquartiers de l'île de Montréal. Et en 2016, on comptait environ 360 ruelles vertes, ce qui totalise 69 kilomètres.
Wow!
Sur l'île de Montréal.
69 kilomètres où on peut jouer à des jeux de société, finalement.
Dans des ruelles, pourquoi pas? Ensuite, j'aimerais vous parler d'une initiative qui est à côté de nous, qui sommes au studio de Choc. Il s'agit des Jardins Gamelin qui sont...
Oui.
Juste à côté.
Ben oui.
C'est l'organisme Sentier Urbain, entre autres, qui s'occupe de proposer une carte de jardin urbain à visiter. Si ça vous intéresse, des jardins comme ça, dans ce style-là, il y a une carte qui existe avec un trajet. Vous pouvez en visiter tout plein. Il y en a vraiment beaucoup, en fait. Moi, j'ai appris ça en faisant la recherche. En plus de créer plein de partenariats avec des organismes locaux, ils prennent aussi soin des installations des Jardins Gamelin, ils proposent des visites. Si ça vous tente d'aller voir toutes les initiatives qui sont proposées, c'est disponible gratuitement. Et saviez-vous qu'ils faisaient de l'aquaponie, les Jardins Gamelin?
Bien, qu'est-ce que c'est ça, de l'aquaponie?
C'est un système où il y a des poissons qui fournissent de l'engrais aux plantes avec leurs excréments et les plantes filtrent l'eau des poissons.
Ben voyons, c'est bien cool.
Donc, ça comme agit en symbiose et les plantes sont très, très heureuses et les poissons aussi. Apparemment, ça fonctionne très bien. Donc, dans des bassins de plantes, parfois, vous pouvez jeter un petit coup d'œil puis voir des poissons dedans.
Ah, pour vrai?
Ouais.
C'est winky, winky.
Et donc, il y a des bacs nourriciers aussi. Donc, on est invité à les cueillir. Toutes sortes de petites choses et en laisser aux autres, évidemment.
Aha.
Ensuite, je vous parle des ruches urbaines. Il y a une certaine popularité autour des ruches. Je ne sais pas si vous le saviez, le miel urbain, ça gagne en popularité. Donc, je vais vous en parler un peu. C'est difficile de savoir combien il y a de ruches à Montréal. C'est pas tout à fait répertorié. C'est un peu libre à chacun. Mais on en estime qu'il y en a au moins 300.
300?
À Montréal. Okay. Et saviez-vous qu'une seule ruche peut contenir environ 80 000 abeilles?
Wow.
Si la ruche se porte bien,
ouais.
La reine va durer environ 3 ans. Ensuite, elle va être remplacée par la ruche elle-même. Et c'est très variable selon les environnements des ruches, mais ça peut produire énormément de miel, jusqu'à 40 à 60 kilogrammes, si ça ne va pas bien. Ça peut produire juste quelques kilogrammes de miel.
Ouais.
Ça dépend de plusieurs choses, dont des bâtiments autour, la quantité de vent. S'il y a beaucoup de vent sur la ruche, les abeilles vont fatiguer. Quantité d'arbres et de fleurs avoisinantes et des points d'eau. Alors, si vous voulez vous lancer dans l'apiculture urbaine, il y a des organismes comme Miel Montréal qui font de la formation pour sensibiliser les gens, les informer, les outiller. Et c'est un miel de très bonne qualité. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en milieu urbain, on utilise peu de pesticides et d'insecticides. Donc, les miels produits en milieu urbain sont... presque bio.
Ah oui, ça, c'est ça. Bio avec émanation de CO2.
Mais apparemment, ça fait du miel de très, très bonne qualité quand même. On les récolte deux fois par année, une fois au milieu de l'été puis une fois à l'automne.
Wow!
Voilà. Et finalement, je vais terminer ma chronique en vous parlant du parc Frédéric Bach qui a été inauguré cette année. C'est pour ça qu'il m'est venu à l'esprit. Ça va être, quand les travaux seront terminés, ce sera un des plus grands espaces verts de la ville de Montréal. Ouais. Ça a été construit par-dessus une ancienne carrière et un ancien site d'enfouissement. Ça fait partie du complexe environnemental de Saint-Michel qui est entre autres géré par la TOHU.
Oui.
Il y a déjà pas mal d'installations qui sont disponibles au grand public. Alors, si vous avez besoin d'une petite escapade d'un après-midi en ville, je vous le conseille fortement. Il y a des très, très grands sentiers, des points de vue sur Montréal en 360 qui sont impressionnants, des belvédères, des aires à pique-nique. Il y a déjà des activités sportives, culturelles et éducatives qui ont lieu dans le parc. Renseignez-vous sur les activités. Ça va se développer de plus en plus. Si vous voulez faire du vélo et du jogging ou de la raquette en hiver, c'est évidemment la place
à visiter.
Oui,
la raquette en hiver, ça va être magnifique. J'allais dire justement, oui, ça va se développer encore parce que là, pour l'instant, c'est un peu un terrain qui peut être aride s'il fait très soleil. Il faut être prêt parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'arbres.
Non, en effet, vous avez bien raison. Ça va totaliser 153 acres. Lorsque ça sera terminé. Ça, c'est très, très grand, très vaste.
Mais d'ailleurs, quand les gens nous écoutent, là, dans 10 ans, là, le parc est si magnifique.
Oh,
les
il
gens
est fini.
Sont en train de nous dire... voyons de quoi ils parlent.
Dans 10 ans, c'est fini.
Il fait pas chaud, là, c'est merveilleux.
Mais ça a commencé, je peux dire la rénovation, a commencé en 1995, donc c'est un long travail qui aboutit.
Oui, c'est vrai.
Ça va se poursuivre, mais ça a été...
Ça fait pas depuis 1995 qu'ils font le parc.
Qui s'apprête, oui, en fait...
Est-ce que c'est la TOHU qui est apparue en 1995, le centre...
Non, ils ont commencé la décontamination des terres. Ça a été très, très long comme processus. Peut-être en sachant pas forcément que ça allait devenir un parc, mais pour que l'activité humaine puisse y prendre place.
D'accord.
Il y a eu beaucoup de travaux, voilà.
Merci.
Ça fait plaisir.
C'est bien merveilleux tout ça. Hein? Plein d'endroits pour aller jouer à des jeux de société dehors.
Si on est malade un peu de la ville cet été, on a au moins quelques petites alternatives. On est choyé quand même à Montréal pour ça.
Wow.
J'aurai 3 fois trop de spliffs, 100 fois trop de puff. Je me bats contre mon ombre, puis mon shadow joue off. Il joue pas, c'est pour de vrai. J'aurai 3 fois trop de spliffs, 100 fois trop de puff. Faut que je serre la bride, mais la force, je la trouve pas. La force, où ce que t'es? Cache que t'es pas loin, je cache que t'es pas loin du trou. Où le cœur au ventre, je crie au vent, mon vide, au vent. Qui me fait la brise au vent,
qui me fait la brise.
Je cache que t'es pas loin, je cache que t'es pas loin du bout. Où le vague à l'ombre, la main m'envahit, la main. Que t'es pas loin, je cache pas que t'es à bord de ma porte.
Ah, c'était Jour Off de Miss Sa Sœur et les Sassies sur leur single. Et bien oui, c'était Jour Off parce que Anne-Sophie est off pour l'émission. Mais est-ce qu'elle a vraiment un jour off, ça? Dieu le sait et le diable sans doute. Alors, c'est maintenant le temps de parler de droit, ben, parce que après tout, c'est ça le concept de l'émission. On fait des liens entre le droit et les jeux de société. Aujourd'hui, l'environnement, un enjeu de plus en plus fondamental. Sophie Thériault et David Robitaille, dans leur texte « Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec », piste de réflexion, écrit ou publié en 2011, nous disent que depuis les deux dernières décennies, les droits fondamentaux de la personne ont été mobilisés à de nombreuses reprises dans des institutions internationales, régionales et nationales afin d'obtenir la sanction d'activités comportant des répercussions environnementales néfastes, susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la personne. Hein, autrement dit, là, on soulève le fait que l'intégrité de la personne passe par un environnement sain. Hein, si vous avez bien suivi la réflexion. Et le Québec n'a pas échappé à cette mouvance, nous disent-ils? Oui. Tel qu'en témoigne l'adoption dans la foulée de sa loi sur le développement durable de l'article 46.1 de la Charte des droits de liberté de la personne, lequel consacre le droit de toute personne, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Oui, en effet, une bonne main d'applaudissements pour un geste consciencieux qui est propre au Québec. On est à l'avant-garde dans ce genre de disposition, bien que, on va le voir, c'est pas tout le temps aussi simple qu'on le dit puis on le fait. Le cas de la Charte, c'est un document d'abord quasi-constitutionnel. Hein? Faut le savoir, comme nous le rappelle Karine Gourde dans son mémoire de maîtrise, les droits protégés par la Charte québécoise sont répartis sous 5 chapitres en fonction de l'objet de leur protection, soit les droits et libertés de la personne, les droits à l'égalité dans l'exercice de la dans l'exercice et la reconnaissance des droits et libertés, le droit politique, les droits judiciaires et les droits économiques et sociaux. Donc, si vous me suivez bien, la Charte québécoise protège ainsi notamment le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité de la personne et à la liberté, à la dignité, ainsi que le droit à la liberté de conscience, de religion et d'expression. Mais parce que c'est la Charte québécoise, bien sûr, son application est limitée aux matières qui sont de la compétence législative du Québec. C'est ça que ça sert, les chartes, hein? Ça protège les individus contre leur propre gouvernement, en quelque sorte. Si vous le saviez pas, la Charte canadienne, c'est ça le concept. Au niveau du Québec, même les individus moraux sont aussi tenus de respecter la Charte du Québec, ce qui est pas le cas au Canada. Et c'est un statut de loi quasi-constitutionnelle. C'est quand même moins autoritaire, hiérarchiquement élevé, que la charte canadienne, qui fait partie de la Constitution canadienne, puisque la loi constitutionnelle canadienne a des dispositifs qui font en sorte que ce n'est pas seulement le Parlement canadien qui peut la modifier. Des fois, il y a besoin de l'assentiment de tous les parlements du Canada pour certains aspects, notamment pour la charte canadienne. Par contre, la Charte québécoise, grâce à son article 52, va pouvoir un peu plus de mordant qu'une simple loi. Donc, ce qu'elle dit, l'article 52, finalement, c'est qu'aucune des dispositions d'une loi, même postérieure à la Charte, donc on vient en avant, en arrière, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte. Donc, on va tout de suite, une disposition d'une loi qui vient à l'encontre de la Charte va être frappée d'invalidité, sauf si c'est expressément dit par le gouvernement québécois, par le Parlement québécois. Et ça, c'est pas extraordinaire, c'est tout le temps comme ça. Ils se donnent tout le temps le droit de déroger à leurs propres règles, même s'ils veulent, donc on va pas s'en familiariser. Mais par contre, ce sont seulement les articles 1 à 38 qui sont protégés par cet article-là, et ça exclut donc les droits économiques et sociaux qui sont, si vous vous souvenez bien, hein, comme le droit de l'environnement. Après ça, Donc, l'article 46.1 n'est pas vraiment expressément protégé comme un truc aussi fort que le reste. Et là, ben, c'est là que ça commence le bal de la complexité de comment soulever des causes de droit environnemental. Puisque l'article 49, lui, c'est un autre article qui va aider à cette quasi-constitutionnalité, permet de faire cesser une atteinte aux droits et libertés protégés par la Charte québécoise. Là, il n'y a pas de limite dans les droits. Hein. Sauf que cet article-là, il est là pour obtenir réparation afin de compenser le préjudice subi. Donc, condition d'ouverture, l'intérêt, il faut que la personne qui soulève, qui va en cour attaquer une disposition législative ou quelque chose qui contreviendrait à la charte, doit lui-même avoir subi une violation. Et donc, ce terme-là sous-entend que la violation doit avoir lieu, n'est-ce pas? Bon. Jurisprudence, doctrine nous dit que la violation n'a pas besoin d'avoir lieu, on peut prévoir la violation mais ça ne doit pas être simplement conjonctuel et hypothétique. Par exemple, il y a une cause qui parlait d'essais de missiles balistiques dans le nord canadien, puis on a attaqué ces essais-là, la permission du gouvernement en disant que ça pourrait favoriser les guerres nucléaires. Ça, c'est un peu trop hypothétique. La Cour a pas retenu ça. Parce que après ça, qu'est-ce qui ne favorise pas les guerres? Se parler, ça peut favoriser les guerres. Puisqu'on va se chicaner si on se parle. Enfin. Donc, c'est un peu ça le concept. Il ne faut pas que ce soit hypothétique, conjonctuel. Il faut vraiment que ce soit là, évident qu'il y a une cause, il y a un lien de cause à effet entre une situation où l'environnement pourrait créer une violation, un préjudice. Donc, ce qui entrait au droit protégé qui pourrait mener à l'ouverture d'un recours, tiens, regardons ça un peu. Donc, il y a le droit à la vie et à l'intégrité de la personne qui pourrait constituer le fondement d'un recours en matière environnementale. Hein. C'est aussi le cas dans l'article 7 de la Charte canadienne. Il y a aussi ce droit-là, hein, puisqu'on pourrait dire que mon environnement pollué pourrait menacer mon intégrité, n'est-ce pas? Donc, mon intégrité étant finalement ma vie. Hein, c'est le droit à la vie, il faut le dire. L'article 6 de la Charte québécoise qui protège le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition des biens, qui pourrait aussi être invoqué. Autrement dit, si mon terrain est pollué et je ne peux pas jouer dessus, ben c'est plate. Je ne peux pas jouir de mon bien qui est ce terrain-là qui est pollué. Et on revient donc à cet article 46.1, un droit à un environnement sain. Donc ça, c'est assez large, hein, on va se le dire. Un environnement sain, qu'est-ce que ça veut dire? On revient un peu sur les auteurs Sophie Thériault et David Robitaille qui nous dit que cet article-là, 46.1, qui, on se souvient, ne fait pas vraiment partie des articles qui sont vraiment protégés par le statut quasi-constitutionnel de la Charte, ben quand même, on pourrait dire que ces articles-là, dans la mesure où le droit à un environnement sain a été consacré dans le chapitre sur les droits économiques et sociaux de la Charte québécoise, donc les derniers articles, le dernier chapitre, la question de sa portée juridique là, se pose nécessairement dans le sens où, justement, vu qu'elles font pas partie de l'article 1 à 38, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment des articles qui vont mener à des punitions, tu sais, à l'invalidité et à une vraie situation, puisque on l'a vu dans le passé, bon là je vais pas vous parler de ça, mais il y a un arrêt assez marquant de la Cour suprême du Canada dans le cas de Gosselin contre le Québec, qui a reconnu la justiciabilité des droits économiques et sociaux de la Charte, mais en leur donnant seulement un jugement déclaratoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie portée à ça. Ils ont juste dit « c'est pas bien ». Puis ça en est fait. Il n'y a pas eu de sanctions véritables et on sait qu'une société de droit nécessite un peu de sanctions quand même des fois. Et on nous dit que les droits économiques et sociaux n'étaient pas, considérant l'état de la jurisprudence, de véritables droits fondamentaux. Bon. Cette interprétation-là, les auteurs nous disent que c'est pas la seule qui est bonne. C'est comme ça qu'ils disent, hein, pour être, disons, gentil et plein de tact. Mais Au-delà de leur caractérisation comme droits fondamentaux, on pourrait aussi dire que ces droits-là, ces articles-là, comme le soutient le professeur Dominique Roux, ils pourraient être considérés comme des principes guidant les tribunaux dans l'interprétation des autres droits et libertés de la personne. Bon, là, je ne sais pas si vous m'avez tous suivi, parce que moi-même, des fois, dans ce raisonnement-là, là, c'est difficile à suivre. Bon. En gros, on nous dit que l'incidence potentielle de cette disposition sur l'interprétation libérale, donc la disposition 46.1 qui dit qu'on a droit à un environnement sain, quand on fait une interprétation libérale des autres droits, du droit à l'intégrité, libérale, on entend que c'est une interprétation plus large, donc favorable à la protection de l'environnement, serait susceptible de comporter une dimension écologique, hein? Donc, en particulier les droits à la vie, à l'intégrité, à la liberté, à la vie privée, à la propriété, à l'égalité. Donc, les mesures de sanctions prévues tant à l'article 49 ou 52 pourraient venir s'appliquer par un peu indirectement à l'article 46.1. Si on dit que le droit à l'intégrité inclut l'article 46.1 qui nous dit qu'on a droit à un environnement sain, ben là, on aurait des sanctions possibles grâce aux articles 52 et 49. Donc, ce serait des vecteurs de constitutionnalisation d'un véritable droit à un environnement sain, pas juste un principe beau et merveilleux. Ouh! C'était quelque chose, tout ça, hein? OK. Là, je vais revenir sur mon lien avec le jeu. Comme ça, on va peut-être un peu plus comprendre qu'est-ce qui était intéressant dans tout ça. C'est-à-dire que on se souvient que dans le jeu, il y a différentes caractéristiques qu'on attribue à une espèce. Et cette espèce-là, Anne-Sophie, cette espèce-là va ensuite avoir une meilleure survie, un meilleur impact sur le jeu. On va faire plus de points grâce à ces caractéristiques-là. Ben, c'est un peu le même concept. Si on dit que l'article 46.1 peut venir ajouter une caractéristique environnementale aux droits mieux protégés par la charte. Hein? Par exemple, bon, carnivore, s'il est seulement carnivore, c'est hot, il peut manger les autres, puis il a la taille parfaite, c'est bon. Sauf que là, je lui ajoute qu'il peut grimper dans les arbres. Mais là, il devient encore plus versatile. Et c'est le même concept, on peut dire, là, ici, c'est que en ajoutant des caractéristiques grâce aux derniers articles qui vont guider pour l'interprétation des premiers articles, ben là, l'environnement commence à avoir un vrai droit constitutionnel. On va donc essayer de combiner, c'est ça le droit, finalement, hein, différentes parties de la charte et des étapes de jurisprudence afin de rendre plus fort l'aspect environnemental. C'est assez le fun, ça. Comme je disais, ben, un exemple, on peut peut-être soulever que le droit à l'intégrité de la personne doit comprendre celui d'avoir un environnement sans pollution, comme décrit à l'article 46.1, soit un environnement sain pour que je puisse vivre. Ceux qui ont de l'asthme dans la vie pourraient dire, ben, mon intégrité, elle est menacée par la pollution. Hein? Simple comme ça.
Distance de la foule triomphante.
Et je pense que c'est le temps de faire une petite critique de notre jeu Evolution. Alors, le jeu Evolution, là, c'est un chouette jeu, je dois l'avouer. Ben, comme d'habitude, hein, je vais passer par étapes. On va parler des composantes en premier. Ben, c'est des matériaux de qualité, hein? C'est simple comme ça. C'est du carton épais dans toutes les composantes, que ce soit les jetons, les petits plateaux d'espèces ou encore le plateau de l'Oasis. Ensuite, les cartes aussi sont de qualité. Là, c'est pas des petites cartes qui se plient facilement, donc elles vont endurer. C'est pas les plus résistantes qu'on peut trouver sur le marché, mais c'est quand même de bonnes cartes. Ensuite, on va trouver les différents sacs de tissu avec des beaux dessins qui sont de qualité. Oui, Anne-Sophie?
Je vais participer.
Ah, c'est bon, ok. C'est parce que je suis désolé. Je pensais que vous vouliez dire quelque chose directement. Ben oui, les petits sacs de tissu là, qui sont avec des petits dessins d'un tissu assez, assez résistant. Enfin, il y a le jeton premier joueur. C'est un dinosaure. C'est pas juste un numéro 1, genre, qui aurait l'air de nous dire c'est Nanto. Non, c'était un vrai jeton de bois construit en forme de petit. Comment on dirait ça? Un
long coup.
Un brontosaurus. Okay. Un long coup dans le jeu, en effet. Finalement, je dirais qu'il y a aussi des aides-mémoire pour chacun des joueurs. Ça, c'est super. Les gens qui expliquent des jeux le savent, là, des aides-mémoire, là, c'est parfait. Comme ça, les gens peuvent s'y référer pendant qu'on l'explique, puis après, pendant la partie. Pour ce qui est des règles, les mécaniques sont assez simples. Hein. De façon générale, là, ça s'explique en 20 minutes environ, les règles, si on écoute bien. Pourtant, les différentes combinaisons de cartes là, ajoutent beaucoup de profondeur aux stratégies et de variations, surtout qu'avec 4-5 espèces ayant chacune 3 traits. Là, des fois, d'ailleurs, là, garder le contrôle, la mémoire, tout ça, là, ça peut être un peu compliqué. Donc, ça place un peu dans une bibliothèque, dans une ludothèque. On pourrait dire que le jeu est vraiment simple, excellent pour les nouveaux joueurs qui cherchent un peu plus de stratégie, mais attention aux joueurs compétitifs, parce que les joueurs compétitifs, la première fois qu'ils abordent le jeu avec des joueurs qui connaissent plus le jeu, vont justement se sentir mal quand ils voient que les combinaisons, là, ils les comprennent pas tous, ils les voient pas tous, ils les prévoient pas tous, tandis que les joueurs qui ont plus d'expérience vont savoir qu'il faut faire attention aux carnivores parce qu'il va manger les petites espèces, fait qu'il faut se protéger, tout ça. Et ça peut donner une petite frustration parce que les carnivores, ça peut éliminer des espèces. Ouais, il y a des gens qui ne seront pas contents.
C'est le cycle de la vie.
C'est le cycle de la vie. D'ailleurs, on peut rappeler souvent qu'on récupère nos cartes. Donc, on perd une espèce, on en fait une autre. Moi, j'ai gagné des parties où est-ce que j'ai perdu 2-3 espèces sans problème. Donc, c'est un excellent jeu qui se joue en une heure environ. Peut s'expliquer en 20 minutes. Se joue jusqu'à 6 joueurs. Il y a quelques extensions disponibles, quoique certains m'ont dit d'éviter l'extension Flight, vol, donc avec des oiseaux. Mais l'extension Climate, climat, donc on gère un peu le climat chaud-froid, est très intéressant. J'y ai joué récemment.
Est-ce que le jeu est disponible en français?
Oui, il est disponible en français depuis 2016.
OK.
Oui, il a été pendant... Depuis 2016, enfin. Il était pendant 2-3 ans juste en anglais. Maintenant, il est disponible en français. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce jeu-là si vous avez le goût. Ben, j'espère que vous avez du plaisir à écouter m'entendre parler du droit de l'environnement d'un point de vue constitutionnel. On se retrouve peut-être au prochain épisode en parlant encore...